bon de louer le Seigneur, n'est-ce pas? Et je crois que si nous apprenons à faire ce petit exercice de pacifier notre être intérieur et de rentrer résolument dans la louange, nous allons découvrir que notre être va se mettre ensemble. On va comme devenir un intérieurement. Et c'est un bon exercice parce que Dieu est un. Et il veut que intérieurement on soit un, rassemblé en nous-mêmes. Et ça, ça le glorifie. Et Dieu agit en nous pendant que nous le louons. Maintenant, je crois qu'on est prêt à écouter sa parole, qu'elle va aussi transformer notre vie. Puis c'est Claude Bécher qui va nous parler ce matin sur un sujet intéressant et qui rejoint l'actualité. Nous allons prier. Mais Seigneur, moi je te remercie Seigneur pour vraiment ce temps de louange pendant lequel on a pu dire que tu étais grand. Et maintenant nous allons écouter ta parole et Seigneur nous voulons la recevoir comme venant de toi, de ce Dieu qui est grand, qui nous connaît, qui connaît nos besoins, qui connaît notre vie, qui connaît nos vicissitudes et qui veut être une lumière sur notre chemin. Oui Seigneur, nous voulons la recevoir comme telle. Et on te demande de bénir notre frère, de le garder, lui et sa famille, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
Merci, Eric. Je vous salue à mon tour, les uns et les autres. J'ai changé de thème. On vous a annoncé qu'on parlerait de l'unité de l'Église d'après l'apôtre Paul. Et voilà qu'il y a 3 jours, chamboulement dans mon cœur, il y a 3 jours, c'était pas hier soir. Hein. Et je me suis dit, avec ce que nous vivons, à partir de la consternation de ces derniers jours, en regard de l'actualité, je me suis dit, il est bon d'être unifié, comme l'a dit Eric, en introduction, dans nos êtres intérieurs avec une vision du Seigneur. Consternation s'étend parce que le nom de Dieu a été associé à des meurtres. Et quand on chante « Dieu, tu es grand », ça nous rappelle d'autres cris qui, au nom de ce Dieu, ont pris leurs armes pour faire justice à l'honneur de ce Dieu. C'est pas vrai ? Ça ne vous a pas choqué? Moi, ça m'a démoli intérieurement, momentanément, j'en ai pleuré, je me suis dit. Comment les peuples et les nations de la terre vont-elles percevoir Dieu, sinon en une forme de Jupiter qui fait justice et qui utilise ses enfants pour démolir les pécheurs? C'est pas vrai? Alors, il faut revenir à la parole de Dieu. Un jour, Jésus rencontre un théologien juif qui connaissait mieux que nous les prophéties. Et il vient et il consulte Jésus et Jésus lui dit, « Mon ami, pour voir le royaume de Dieu s'accomplir, tu dois naître de nouveau, dit-il au vieux Nicodème. » Avez-vous vu ce que Jean dit au chapitre 3e de son évangile, au verset 3, au verset 5, « Jésus répondit à Nicodème, en vérité, je te le dis, nul s'il ne naît d'eau et d'esprit, naître d'eau et d'esprit, vous et moi, on ne se souvient plus, mais c'est Ézéchiel qui doit se réaliser quand le Messie vient. Naître d'eau et d'esprit, une nouvelle ère qui commence avec le Messie. Nul dit Jésus à Nicodème, s'il ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Autrement dit, nous nous attendons au Saint-Esprit dans notre vie, pas seulement pour commencer, mais pour rentrer. Vous êtes d'accord? À quoi sert la nouvelle naissance? À entrer dans quoi? Dans un royaume. C'est quoi un royaume? Nous autres, les Suisses, on se souvient plus ce que c'est qu'un royaume, hein, mais c'est un gouvernement du Seigneur. Or, précisément, c'est ce qui peut nous effrayer si on ne connaît pas ce Seigneur-là, si on ne sait pas que Dieu, avant toute chose, est amour. Avant toute chose, il est amour. Et quand on dit il est saint en amour. Mais regardez, ce n'est pas seulement ceci que Jésus dit, mais dans Jean chapitre 3, il dit après, « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il vous faut naître de nouveau. » Donc pour voir le royaume de Dieu, et pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut le Saint-Esprit. Et maintenant, j'aimerais que l'on comprenne que recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement fait pour que je me sente bien, mais pour que je me comporte bien. Et ça va ensemble. Souvent, on pense que tous les dons charismatiques sont faits là juste pour moi. On oublie le grand projet du royaume de Dieu. Et nous en avons, tenez-vous bien, cette fois-ci pas il y a 2000 ans avec l'évangile selon Jean, mais 2700 et quelques années, il y a eu deux prophètes qui ont dit à peu près la même chose. Une prophétie que nous allons examiner ensemble maintenant. Vous avez vu, je vous ai mis comme titre « De leurs épées, ils forgeront des socs ». Vous avez déjà entendu parler de ça? Il faut combien de temps pour, à partir d'une épée, faire un soc de charrue? D'abord, une épée, c'est pas assez de métal pour le soc de charrue, vous êtes d'accord? Mais il en faut pas mal. Et ensemble, on fera certainement ensemble un beau soc de charrue. À quoi servent les socs de charrue? À labourer en vue de quoi? Pour manger. Enfin, pas le soc de charrue, mais ce que, par la grâce de Dieu, la terre produit quand on travaille la terre. D'accord? Autrement dit, d'une industrie de guerre qui sert à tuer, Dieu demande une transformation intérieur par le Saint-Esprit, pour que je m'inscrive dans une industrie qui nourrit. Il faut combien de temps pour ça? Chez moi, beaucoup de temps, et c'est pas fini. Parce que des épées intérieures, j'en ai beaucoup. Ah, pour zigouiller les gens, moi, c'est rapide. Oh, je peux pas nécessairement le faire avec des épées, j'en ai pas à la maison. Mais alors, dans ma maison intérieure, j'en ai beaucoup. J'ai des épées là, j'ai des épées là, j'ai des épées là, j'ai des épées là. Vous pas? Il y a une statue qui se trouve devant le siège de l'ONU à New York, qui a été offerte, et c'est typique soviétique, du temps de l'Empire soviétique, au Concert des Nations. Mais ils oublient des choses du passage où c'est marqué. Toujours est-il, vous voyez que ce monsieur, il est musclé. Il prend une épée. Est-ce que c'est l'épée de l'Empire soviétique? Je ne sais pas, je doute à un moment donné. Quoique, dans les années 80, nous avons vécu le désarmement, la démolition des armes nucléaires. Non, vous ne vous souvenez pas, non? Ou bien, on a vu des trucs un petit peu fous, non? Ça ne va pas toujours dans le mauvais sens, ou bien? Ou bien, qu'est-ce que vous pensez? On a vu détruire un arsenal, mais aujourd'hui, on n'est pas en train de détruire les arsenaux sur le plan mondial, j'aimerais vous dire. En ce moment, on est plutôt en train de remonter des arsenaux nucléaires, pas seulement nucléaires, dans tous les pays, pas qu'en Chine. On n'est pas nécessairement dans ce sens-là. Mais toujours est-il que vous avez ici une statue d'un monsieur qui est en train de bosser dur, et j'aimerais bien que nous aussi, en accomplissement à cette parole, nous travaillions à la transformation. Autrement dit, certains appelleraient ça la sanctification. Sauf qu'on n'a pas l'impression que c'est le même travail. Et pourtant, c'est le même travail. On va essayer de laisser retentir en nos cœurs cette prophétie d'Ésaïe et de Michée, donnée en leur temps, et en leur temps, les deux grands empires ultra-armés s'appelaient la Syrie et l'Égypte. La Syrie et l'Égypte étaient les super musclés. Et alors, quand ces deux super musclés devenaient fragiles, que faisaient les petits États ? Ils faisaient des armes. Oui, c'est assez classique. Demandez aux politiciens, ceux qui aiment l'histoire, c'est comme ça que ça se passe. On se fait des armes pour être de nouveau autonome, indépendant et pas payé pour les autres. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi ça ? C'est un culte ou c'est un truc politique ? Et si jamais c'était indéconnectable ? Si Jésus était vraiment le Seigneur de la vie dans tous les domaines ? Nous allons lire ensemble maintenant cet extraordinaire passage, nous en imprégner et poser les bonnes questions. Il arrivera dans l'avenir. Voici une expression typique de l'attente de l'ère messianique. Il arrivera dans l'avenir. Vous savez, c'est pas clair. Dans l'avenir, c'est facile à dire, hein, surtout 8 siècles avant que Jésus vienne. Mais ça va arriver, les amis, d'accord ? Expression typique, ou en ce temps-là, ou en ces jours-là, d'accord ? Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison du Seigneur, c'est où ça ? Morija, mont du Temple. Sachez que ce n'est pas la plus haute des collines. Vous étiez déjà une fois ? Il y a des collines plus hautes à côté, d'accord ? Mais il arrivera que la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes. C'est le grand ménage, hein ? Et elle dominera les collines. Des peuples y afflueront. Pas mal, hein ? Vous y êtes ? Pèlerinage. Si vous êtes juif, 3 fois l'année, pèlerinage pour tout le monde. En grappe, en groupe, on y va. Pour tout le monde, pèlerinage. Où ? C'est du temps de Pâques, c'est le temps de Pentecôte et c'est le temps de la fête des tabernacles. Tout le monde. Des milliers de personnes convergent vers où ? Le temple. Pourquoi le temple ? Parce que c'est le Créateur des cieux et de la terre. D'accord ? Vous y êtes ? Maintenant, les nations vont faire ce pèlerinage. Des nations nombreuses se mettront en marche et diront « Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. » Amen. Il nous montrera ses chemins. Oui, normalement, quand on consulte le Seigneur, on reçoit sa parole. Il n'y a pas de culte sans que la parole du Seigneur nous rejoigne, d'accord ? C'est pas que la louange, c'est et la louange et la parole nous rejoint, et on sait de nouveau comment se comporter. Vous voyez ? C'est la raison pour laquelle dans ce culte, ici à Villars, où Jésus est le trésor, il y a 3 choses qui doivent toujours avoir lieu. La prière, chanter, la louange. Chanter ou pas, mais la louange, la prière. Deuxièmement, l'écoute de la parole de Dieu qui nous rejoint tous. Et la troisièmement, la communion. S'il n'y a pas ça, on range nos bagages, ce sera mieux ailleurs. Mais tant qu'il y a ça, nous voulons ceci. Ici, venez, montons à la montagne du Seigneur, disent les nations, à la maison du Dieu de Jacob, il nous montrera ses chemins, c'est ça que j'étais en train de commenter, et nous marcherons sur ses routes. Et nous marcherons sur ses routes. L'important pour le culte, c'est ce qui se passe après. Quand on marche. Comment on marche ? Quand on a 3e âge, quand on est 2e âge, quand on est 1er âge. Enfin, ne me demandez pas quel âge c'est, mais... Et nous marcherons sur ces routes. Oui, c'est de Sion que vient l'instruction et de Jérusalem, la parole du Seigneur. Bon, c'est pas fini. Et on continue la lecture. Le Seigneur sera juge entre des peuples nombreux. Alors, du temps de... C'est pas la tolérance sera juge entre tous les peuples du Seigneur. Je sais, j'ai rien contre la tolérance, mais comme disait un de mes professeurs, la tolérance, il y a des maisons pour ça. La tolérance, c'est pas l'amour nécessairement. D'accord ? Vous voyez la différence ? La tolérance. Ici, Le Seigneur sera juge entre des peuples nombreux, l'arbitre de nations puissantes, même au loin. Lui ou quoi d'autre régit les nations. Est-ce que c'est Zeus ou c'est le Créateur des cieux et de la terre qui fait alliance? C'est pas la même chose, vous comprenez? Est-ce que c'est Jupiter? Non. Est-ce que c'est Superman? Non. C'est cet être unique qui se révèle en Israël et qui dit son droit et qui dit qu'il est amour. Et on continue. Maintenant, il y a le boulot pour les nations. Vous faites partie des nations?
Oui.
Moi aussi. Martelant leurs épées. Ça s'appelle le transarmement. À partir d'un matériau de base, on fait un autre matériau. Vous comprenez? C'est pas détruire les armes et après recréer autre chose. C'est à partir d'où nous sommes, on fait un autre projet. Martelant leurs épées, ils en feront des socs. Et de leur lance, ça sert à quoi une lance? Ouais. Qui en général? Les enfants, la femme? Non? Les gens qui sont insupportables selon notre critère, d'accord? Il y a des lances matérielles et il y a des lances autres, hein? Martelant leurs épées, ils en feront des socs et de leurs lances, ils feront des serpes. Les serpes, c'est pour la moisson, c'est aussi pour que tout le monde, en tous les cas, ait à manger. Maintenant, regardez la suite. On ne brandira plus l'épée nation contre nation. Quelle vision, mes amis ? On ne brandira plus l'épée nation contre nation. Mes grands-pères, mes grands-mères en ont vu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mon père était jeune. Nation contre nation, c'était presque généralisé. Hein? Les aînés parmi vous, vous vous souvenez? On ne brandira plus l'épée nation contre nation, on n'apprendra plus à se battre. Je ne sais pas qui m'a appris. Mais j'aimais me battre. Et encore. On n'apprendra plus à se battre, c'est de l'éducation. Qu'est-ce que je fais de ma violence? Autrement dit, comment je l'oriente bien? C'est pas juste ça? Le transarmement. Comment je l'oriente bien, ma pulsion, ma violence, mon amertume, ma colère, mon indignation, comment je l'oriente pour le bien? C'est pas ça la question? J'entends déjà quelques voix dans l'assistance qui disent « Oui, mais là tu parles du ciel. Attends, pour le moment, on est sur la terre. » Ou bien « Attends, tu parles du millénium. On n'y est pas là encore. » C'est pas pour nous, ça. Si? Non? Je sais pas, moi, quand j'étais jeune chrétien, on m'a dit, ça, c'est pas pour nous. C'est soit de la poésie. Vous voyez ce qu'on veut dire quand on dit c'est de la poésie? C'est de raconter pour les enfants. Soit c'est le ciel, sur la terre, bien sûr, les nations. Et si c'était pas ça? Et si c'était pour nous? Le seul problème, c'est que là, c'est pas que l'intériorité, c'est aussi l'extériorité. Ça pose un certain nombre de problèmes avec nos habitudes de fonctionner, rationnelles et réalistes et raisonnables. C'est pas raisonnable, c'est raisonnable. Vous avez peur de quoi si on devait le faire? Imaginons qu'on devait le faire vraiment. Imaginons qu'on prenne ça au sérieux. Parole du Seigneur, pour moi, je quitte ici, je veux le réaliser. Quelles seront nos peurs? C'est que si moi je commence, est-ce que l'autre continue ou est-ce qu'il va sortir son vrai épée? La peur, la sécurité. D'accord? Non? Ensuite, on continue. Jusqu'à là, c'est compréhensible. Maintenant, on arrive dans le domaine de l'économie. Regardez. Ils demeureront chacun sous sa vigne et sous son figuier. Il faut que vous sachiez, en Palestine, Israël, il y a beaucoup de vignes. Et en général, du temps de Jésus, il y avait un figuier au milieu. Sous son figuier, sans sa vigne. D'accord ? Chacun fait son boulot dans son lopin de terre. Vous y êtes ? Et personne pour les troubler. On va y réfléchir courtement tout à l'heure. Moi, je connais beaucoup de gens, ils sont dans leur vigne, mais alors ils vont muscler le mur tout autour parce qu'ils ont peur que quelqu'un vienne leur prendre leur lopin de terre. On continue. Car la bouche du Seigneur le Tout-Puissant a parlé. Si tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, nous, nous marchons au nom du Seigneur, notre Dieu, à tout jamais. Est-ce que ce n'est pas une belle parole ? Maintenant, qu'est-ce que ça peut vouloir signifier pour nous ? J'ai lu dans le 24 heures hier ce petit bout d'article où une dame dit que quand elle était à Zurich, chaque fois qu'elle passait devant l'armurier, tellement les armes de guerre à vendre, non les armes, peu importe si c'est de guerre ou pas, à vendre étaient abominables, elle changeait de trottoir. Et un peu de temps après, elle revint et qu'est-ce qu'elle voit ? Que dans ce même magasin, on vendait plus des armes de guerre, mais des choses en rapport avec le tricot et le fil et les machines à coudre. Et elle rendait grâce à Dieu pour la transformation de ce commerce. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup, 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 beaucoup d'argent avec la pornographie. Il y a des gens qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent avec l'industrie de guerre. Est-ce que vous croyez qu'on vend des armes de guerre pour que ça ne serve pas ? Aujourd'hui, on dit aux gens, t'as pas peur, arme-toi. Et cette histoire-là, on l'a déjà entendue plusieurs fois en Europe et dans le monde. Oui, je crois que nous avons besoin du Seigneur qui régit les nations. Ceci peut s'appliquer soit intérieurement et extérieurement. Ce passage se trouve également dans Ésaïe 2, à la seule exception qu'ils demeureront chacun sous sa vigne et sous son figuier, et personne pour les troubler ne se trouve que dans Michée. Qu'est-ce qui a été transformé chez ces gens pour qu'ils puissent dire « Je suis content sous ma vigne » et sous mon figuier? Pourquoi il ne veut pas le figuier et la vigne du voisin? Ce qui a été transformé chez ces gens, c'est le contentement intérieur de ce qu'ils ont. Le jour où ça arrive, mes frères et mes sœurs, il n'y a plus besoin d'armes. On veut faire le droit, même des fois au nom de la tolérance, au nom de la démocratie et au nom de la justice, juste pour avoir le pétrole du voisin. Vous ne croyez pas ? Juste pour avoir les diamants de l'autre. On peut vendre des armes à un endroit juste pour qu'il y ait de l'anarchie suffisante pour que je continue à avoir les diamants du Congo. Vous ne croyez pas ? Oui, quelqu'un le sait de l'intérieur. C'est comme ça que ça fonctionne. Le rapport entre le commerce des armes et puis la justice et la paix. Ce qui est appliqué ici n'est pas qu'au niveau de l'internationalité, mais aussi au niveau de l'individu. C'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, on va juste arriver vers des défis, à toutes sortes de niveaux, mais un défi qui commence en moi. Si la conversion du Saint-Esprit ne commence pas en moi, pour transformer ce qui est réplique d'agression vis-à-vis de quelqu'un par réplique de bienveillance pour changer les choses, ça ne sert à rien de commencer sur le plan international. Mais quand Jésus est venu, c'est ce programme qu'il a commencé, lui-même l'a pratiqué. Écoutez, il est venu comme le roi, pas pour qu'il soit le seul à donner sa vie, mais pour que, à la suite de Jésus, dans l'application de ce programme, nous soyons tous des frères et des sœurs de Jésus. Surmonter le mal en faisant le don de sa vie, le bien. Pas comme un kamikaze, mais comme quelqu'un qui aime l'autre malgré tout. Pour que ce lieu de transformation continue à avoir lieu par le Saint-Esprit. Et il nous faut le Saint-Esprit pour ça, parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas arriver à ceci. Jésus est ressuscité d'entre les morts, lui le seul, l'unique, et nous à sa suite, pour que cette force de résurrection qui se trouve ici, pour amener la vie aux nations, comme le rappelle l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, vous avez aussi tout à la fin, les nations, les rois des nations convergent vers la Jérusalem de Dieu qui vient du ciel, vous vous souvenez? Ceux qui connaissent un peu la fin de l'Apocalypse, c'est ça. Eh bien, pour nous, ce programme, comme disciples de Jésus-Christ, même s'il est différent de la politique suisse ou française, qui va armer, qui va dire « je suis en guerre avec des moyens violents », même si c'est différent, pour nous, peuple de Dieu, ceci est normatif. Ça demande à nous, de nous, une identification à l'œuvre inaugurée par Jésus. Et ça a commencé. Aujourd'hui, sur la surface de la terre, il y en a qui disent « je veux te suivre, Seigneur Jésus ». Il y en a en Afrique du Nord, il y en a en Chine, il y en a en Israël, il y en a en Amérique, il y en a en Suisse, il y en a à Lausanne. Le plan A est en route. Il a été prophétisé par Michée et par Ésaïe et il nous concerne, nous également. Transformer. J'ai été à Strasbourg et vous savez que je suis amoureux des vieilles fresques. Cette fresque vient de Saint-Pierre le Jeune, qui a une vieille église de Strasbourg qui est luthérienne. Et là-bas, il y a une vieille fresque où, quand vous regardez bien, il y a les rois avec des étendards. Et les étendards, il y a marqué dessus « Germania », c'est le premier. Et ici, vous ne le voyez pas, il y a la croix du Christ sur une colline. La croix du Christ, c'est Jérusalem. Allons à la maison du Seigneur, Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il y a là? Il y a aussi le lieu du calvaire. Il n'y a pas que l'esplanade des mosquées, d'accord? Il y a aussi cette autre montagne. Et vous voyez, les rois des nations. Après, il y a la Gaule, après, il y a l'Italie, après, il y a l'Angleterre, et après, je ne sais même pas s'il y a... Je crois pas qu'il y a marqué le mot Suisse. Mais après, il y a la Hongrie, la Pologne, et regardez, les rois n'ont pas d'armes, n'ont pas d'épée. C'est une manière de figurer ce que nous avons vu dans Michée 4 et également dans Ésaïe 2. Et c'est une manière de dire « ça a commencé ». Le seul problème ici, c'est que nos nations n'ont pas prêté allégeance à Jésus-Christ. D'accord? Mais ça, ça ne nous étonne pas. Aucune nation n'a prêté allégeance à Jésus-Christ pour le suivre dans son humanité. Certains rois ont voulu être pieux, ont renoncé à un certain nombre de violences et ont limité le droit simplement à maintenir l'ordre, mais sans être belligérants. Mais on voit ici ces rois sont dans ce pèlerinage prophétisés. Et nous devrions aussi partager, nous voulons partager ce pèlerinage à notre tour. Et recevoir cette parole du Seigneur. Le Seigneur, quand il régit les peuples, je le crois, c'est le salut du monde. Et quand je dis le salut du monde, ce n'est pas que l'individu qui est pardonné, c'est aussi les relations qui sont transformées. Vous croyez ça? Que Jésus est plus grand que le pardon simplement d'une personne, mais qu'il est aussi le sauveur des relations individuelles, mais aussi le sauveur des rapports entre les nations qu'il aime. Est-ce que Jésus n'est pas plus grand que celui que j'imaginais qu'il était? Alors on voit ces nations, sauf que aujourd'hui, ce ne sont pas les rois qui font ceci, ce sont, et je l'espère de tout mon cœur, les disciples de Jésus-Christ réunis en Église qui font ce pèlerinage et disent « Nous voulons être aussi souples, réceptifs et obéissants au plan de Dieu pour nos vies, dans nos situations concrètes. Nous voulons refuser de diaboliser quiconque. Quiconque. Et même s'il y a des gouvernements pour lesquels nous n'avons pas encore prié, nous avons parlé de gens qui étaient mis à mort au Pakistan, vous vous souvenez? L'ordre du Nouveau Testament, c'est de prier pour les autorités qui persécutent. c'est de prier en faveur des autorités du Pakistan. Pas pour qu'elles continuent dans leurs méfaits, mais pour que le Seigneur assouplisse leur cœur. C'est la raison pour laquelle nous sommes aussi réunis. Prier pour les autorités, c'est pas juste prier pour toutes les autorités indépendamment, c'est aussi prier pour que leur cœur soit assoupli à la crainte du Seigneur et au respect de tous. Vous saisissez ? Prier pour les autorités, c'est ça. Du temps de l'épître aux Romains, les autorités n'étaient pas que favorables au judaïsme et au christianisme naissant. Cortège des nations, pèlerinage des nations vers la croix du Christ, vers le Seigneur des Seigneurs. Alors, pour nous, montons à la maison du Seigneur. C'est aussi là que nous sommes. Quand nous écoutons la parole de Dieu, nous montons à la maison du Seigneur. Quand nous montons à la maison du Seigneur, là, nous trouvons le maître du monde, celui qui s'est révélé. Et nous n'aurions pas rêvé, nous n'aurions pas rêvé avec nos meilleurs de nos rêves, ces visions qu'a eues Ésaïe et Michée. C'est Dieu qui les a révélées. Nous n'aurions pas rêvé un Seigneur des Seigneurs qui vient sous la forme de Jésus. Personne n'aurait rêvé ça. On aurait rêvé à Musclor, mais pas à Jésus. Quand nous adorons Jésus, nous adorons le maître du monde et le sauveur des relations du monde. Et j'ai pensé que dans ce temps troublé, après la consternation, nous avions besoin de la vision. Frères et sœurs, pouvons-nous partager cette vision et la recevoir pour nous ? C'est une vision de bonheur et de salut du monde. Oui, recevoir Jésus sauve la personne, mais elle met la personne en situation d'être à son tour sel et lumière du monde. Là, le Seigneur donnera ses instructions. Je suis sûr que quand l'Empire soviétique a donné la statue de bronze à l'ONU, il ne pensait pas du tout que c'est le Seigneur qui donne ses instructions, puisque le Seigneur, à ce moment-là, ils n'en voulaient pas du tout. D'accord ? Ils voulaient juste un idéal humain. On va savoir comment on y serait arrivé. Mais là, on trouve l'apaisement aussi que nous avons besoin. Le Seigneur a une solution. Le Seigneur n'est pas désarçonné quand il y a le bruit des bottes dans le monde et des violences. Le Seigneur fait de nous des instruments de sa paix dans toutes les situations. Dans toutes les situations et à nos tours aussi. Le Seigneur est au-dessus des puissances. Il est à l'œuvre. Et puisque le Père est à l'œuvre, il nous dit, mon enfant, quel que soit ton âge et ta situation, veux-tu aussi rentrer dans ce projet ? C'est ça la mission. Il est vainqueur des forces du diable, il est vainqueur aussi des forces de violence. Et c'est sa manière pour convaincre les cœurs, afin qu'il y ait de la conversion. Jésus, le roi des nations, dès maintenant, le croyons-nous ? Ou est-il seulement le sauveur des âmes ? Je crois que le Seigneur, il est sauveur de bien plus large que ce que nous avons souvent appris jusque-là. Martelant leurs épées. Vous savez que j'ai enseigné pendant 23 ans dans un lieu de formation, près de Bâle, département francophone. J'étais aussi ancien, depuis plus d'une trentaine d'années. Dans notre jargon, ça s'appelait les pasteurs. Hein. Et à l'entrée du lieu de formation, j'ai, avec d'autres, rêvé à quelque chose qui symbolise la transformation dont nous avons besoin, la sanctification, disaient dans le temps les gens. Hein. Et nous avons dit aux gens, amenez-nous nos vieux instruments de guerre de nos nations. Alors, quelqu'un a amené un vieux casque du Troisième Reich avec un éclat d'obus. Un autre a amené une épée de gradé suisse. Et un troisième a amené un obus anglais. Et un quatrième a amené un bout de baïonnette française. Et je suis allé chez un forgeron et je lui ai dit... J'aimerais que tu me forges une statue qu'on mettra à l'entrée du lieu de formation pour que tous ceux qui rentrent là-dedans se souviennent que la transformation continue. Et ce forgeron, il m'a d'abord regardé en me demandant... Mais petit à petit, dans lui aussi, son don s'est mis en œuvre et il a changé cette épée d'officier, ce douille, tout ça, Et il a fait un homme qui forge justement un socle de charrue. Juste pour rappeler que nous devrions aussi avoir à l'entrée de nos églises, et comme les Juifs aussi, en rentrant dans les poteaux de nos maisons, vous savez, nous devrions avoir ce programme. C'est pas fini, le Seigneur me transforme encore. Seigneur, je veux être docile à ta transformation. Dès que j'ai envie d'utiliser mes armes intérieures, transforme-moi, Seigneur. Dès que je vote en tant que citoyen suisse ou français ou italien, peu importe, je vote pas pour les va-t-en-guerre. Je vote pour des gens qui sont des gens qui aiment la paix et l'équité et la justice. Pas pour les va-t-en-guerre. Ça fait partie aussi de ce qu'on peut en faire au niveau national. Alors, que le Seigneur nous aide, et je termine là, ils en feront des socs et l'on n'apprendra plus la guerre. Ça, pour l'éducation des enfants, débrouillez-vous, hein. Je souris. Et quand même, c'est le Saint-Esprit qui va opérer dans nos cœurs, à un moment donné, génération après génération, son œuvre pour que nous soyons dociles. Nous allons viser, Seigneur, la transformation du mépris et de la violence intérieure. La tolérance ne suffit pas. Tant mieux pour la liberté d'expression, mais ça ne suffit pas pour les enfants de Dieu. Nous avons une autre militance qui va plus loin. Et cette militance, elle doit faire de nous des instruments de paix. Vous voulez ? On le fait ensemble, ce sera notre prière. Alors, les défis concrets, nous les avons vus, personnels, en soi. Avoir une église qui a une jolie prise de décision ne suffit pas. Il faut encore que l'Esprit de Dieu nous anime les uns et les autres pour toucher la bienveillance. Le relationnel, entre nous. Oui, vous savez, un des grands malheurs de l'église, c'est que l'église, dans sa tête, a cru que quand le Saint-Esprit est là, il n'y a plus de conflit. Et mon œil, quand le Saint-Esprit est là, alors on s'explique jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous conduise ensemble, vous comprenez ? On a confondu la paix et l'absence de confrontation. La guerre et le mépris, c'est le péché. Mais le désaccord et le conflit où on travaille ensemble, ce n'est pas le péché. Vous connaissez, vous, des couples qui marchent sans qu'il y ait d'explication ? Vous me les montrez, je voudrais bien les voir. Pour que chacun vive, non pas avec du ressentiment intérieur, il est important que le Seigneur nous donne aussi une culture de la paix, où on se parle dans la vérité, où on s'écoute profondément et où on cherche ensemble, Saint-Esprit de Dieu, comment tu veux me conduire ? Surmonter le mal en faisant le bien, c'est Seigneur Jésus, dans ma situation, je suis disponible pour que ton royaume de Dieu progresse, avec Jésus et comme Jésus. Dieu est amour. Venez, montons à la maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Amen.